voix de fée, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Pour cette édition, vous êtes en compagnie de Nicolas et Faruko qui a pas ouvert son micro. Et donc, vous êtes en compagnie de Nicolas et Faruko. Il est là.
Encore un problème de Python.
Donc, cette semaine, à voix de fée, nous avons tout d'abord une longue entrevue sur la situation en Islande avec un militant français, une entrevue qu'on est allé chercher sur la toile. On a aussi quelques nouvelles locales, critiques médiatiques et aussi, nouvelles syndicales et les inévitables plugs. Et si on est chanceux, pour le dessin, on aura Jeannie qui va nous parler de politique municipale.
Yeah! En attendant, on va enchaîner immédiatement avec une chanson hommage à Marcus Garvey. La chanson date de fin des années 60, alors oui, c'est Back to the Future, mister.
Youpi doulala, ça promet. Ben, une chance que le ridicule ne tue pas. Hein,
parce que... non. Mais c'est bon.
Oui, non, c'est bon. Oui, on n'a pas peur du ridicule du tout dans nos éducatifs, mais c'était pas de ça que je parlais. Je parlais en fait du sujet que je m'apprêtais à aborder.
Ouais, là, ridicule puis réel, c'est pas un synonyme dans le dictionnaire, ça.
Ben, c'est ce que je dis, là. En cette ère d'accommodement raisonnable, les syndicalistes et autres militants des mouvements sociaux sont parfois confrontés à des situations, mais vraiment pas possible. Puis bon, on en a eu un bel exemple la semaine dernière. Il y a le syndicat des métallos, syndicat bien connu un peu partout au Québec, là, les Métallurgistes Unis d'Amérique, qui sont sur la place publique parce qu'ils n'auraient pas adéquatement défendu un de leurs membres. Alors, c'est une belle cause qui mêle lutte de classe, liberté d'expression, liberté de conscience et tout le tralala. Tout a débuté à Granby en 2007. Alors, il y a un travailleur de l'usine Transformateur Delta du Canada qui s'est fait épingler par la direction de l'entreprise parce qu'il porte des t-shirts qui ont le don d'irriter ses collègues. Alors, les collègues ont porté plainte contre les t-shirts du monsieur. Et finalement, ben, c'est ça, là, la direction a sévi. Alors, sur un des t-shirts, il est écrit « Dieu n'existe pas ». Et sur l'autre, c'est marqué « Voici le vrai visage de Dieu avec une représentation d'un extraterrestre » Eh oui, ben le bonhomme n'est pas athée, ce qui aurait déjà été plus sympathique, mais raélien. En bref, la compagnie lui demande de ne plus mettre les gaminets au boulot. Et un jour, bon, la direction décide de retourner le travailleur chez lui sans rémunération pendant 2 heures pour qu'il enlève le chandail qu'il porte à ce moment-là et qu'il en mette un autre qui va moins porter à controverse. Et donc, au moment de cette sanction-là, le syndicat dépose 2 griefs. Contre l'employeur. Le premier porte sur la discrimination et le deuxième réclame les 2 heures de travail perdues. Donc on pourrait croire que les métallos ont fait leur boulot. Ben non, les réaliens ont décidé de se servir de ça pour se faire un peu de pub. Et bon, dans un premier temps, le travailleur décide de poursuivre le syndicat et non pas la compagnie devant la commission des relations de travail, alléguant que les métallos ne l'ont pas défendu. Alors un conciliateur convoque une rencontre chez l'employeur. Et suite à des discussions, la compagnie est prête à rembourser les 2 heures perdues. Le travailleur refuse l'offre patronale, se désiste par écrit de sa plainte contre le syndicat et indique qu'il va continuer de porter les 2 chandails. L'employeur applique alors une gradation de sanctions, comme c'est prévu dans la convention collective, qui inclut par ailleurs une politique qui interdit toute discrimination sur la base de la religion, du sexe, de la race, etc. Alors, il y a rencontre avec le travailleur, puis on lui donne 3 jours de suspension, puis 10 jours, et finalement, il y a congédiement. Ce à quoi le syndicat répond par 3 griefs, 1 pour chaque sanction, mais c'est pas suffisant pour les railés qui accusent aujourd'hui les métallos de pas défendre leurs membres. Et c'est rendu en cours.
Et pourtant, on serait tellement mieux.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des comptes pareils, sérieusement?
De la bouillie.
Parce qu'à un moment donné, là, je veux dire, à quoi on s'attend?
Ah, mais tu sais que si on était un gros média, on serait probablement poursuivre maintenant.
Oui, probablement.
Parce que les autres, ils poursuivent les big shots.
Ouais, mais n'empêche. On a ici un syndicat qui, malgré le fait qui a conflit à l'interne de son membership, là, visiblement, a décidé de faire sa job et de défendre un de ses membres jusqu'au bout. Et le membre refuse de suivre les conseils du syndicat, refuse aussi d'aller jusqu'au bout des procédures et des griefs. Et voilà, aujourd'hui, on dit c'est le syndicat qui n'a pas défendu son membre et qui aurait dû en faire une bataille générale sur la liberté d'expression, non pas juste une défense
du travailleur. Je l'ai vu, le rallye, en entrevue à la TV.
À la télévision.
Et en plus d'avoir encore son t-shirt en question, il disait qu'en fait, c'est une sorte de vendetta religieuse parce que la personne qui l'aurait dénoncé se pointe à la job avec sa Bible.
Ouh.
Alors, pourquoi ils n'ont pas poursuivi la Bible? Elle doit bien être enregistrée à un nom commercial. Ils devraient poursuivre eux autres.
Ouais, enfin, bref. Toujours est-il que tout cela se passe en 2000, mais en fait c'est en 2007, là. Mais aujourd'hui au Québec.
Oui, ça pop en 2009.
La semaine dernière, on a eu des morceaux d'anthologie dans les médias. Alors, 2 morceaux d'anthologie d'affilée. Donc à Québec, non seulement on peut entendre des choses hallucinantes à la radio, on en a des exemples régulièrement. D'ailleurs, parlant de choses hallucinantes à la radio, tu l'as pas loin?
Oui, je t'aime.
Oui, tu nous mets les choses hallucinantes à la radio?
Nos esprits, ce qu'on est.
Moi, ce que j'aime pas, c'est les artistes qui nous prennent en otage, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les salles de spectacle, puis qui, en 2 tonnes, vont se mettre à délirer sur la politique. Ça va donc bien pas vivre. Maudite gang de colons, de gigons, de QI, 12 de QI.
Vous en avez assez de la vermine populiste? Écoute, voix de fête, tabarnak!
Donc, à Québec, non seulement on peut entendre des choses hallucinantes à la radio dont nous venons de vous faire entendre un extrait parce que nous sommes persuadés que, tout comme nous, vous ne vous abreuvez pas à la radio populiste, mais en plus, on peut aussi en lire dans les journaux. Alors, prenons Jean-Jacques Sanson, par exemple. Ça, là, c'est un journaliste sérieux. C'est un chroniqueur politique senior de la région qui officie dans les pages éditoriales des quotidiens depuis quand même quelques décennies. D'abord, au Soleil, dont il a été quand même un des cadres émérites lors
de la grève.
Oui!
Ah!
Et maintenant, au Journal de Québec, dont il est un des cadres émérites lors du lockout. Donc, on peut l'entendre régulièrement à la radio sérieuse, c'est-à-dire la radio d'État, Radio-Canada, et même le voir à l'occasion à la télévision sérieuse, c'est-à-dire la télévision d'État, et même des fois à la télévision pas trop sérieuse, c'est-à-dire l'autre autres télévisions d'État. Donc, quand il se passe quelque chose à Québec, il fait partie de la demi-douzaine de confrères que les journalistes de Montréal appellent. Bref, c'est un vecteur d'opinion, une institution. Pourtant, ça n'empêche pas de déraper complètement dès qu'il est question de gauche sociale ou politique.
Alors, la misère à se retenir.
C'est hallucinant. Prenez par exemple sa chronique d'hier, ben pas d'hier, en fait, la semaine dernière, sur l'affaire qui opposait Françoise David à Sylvain Bouchard du 93.3. Alors, sous couvert d'objectivité, il a quand même éreinté les deux côtés. Il a traité Sylvain Bouchard d'adolescent attardé. Jean-Jacques Sanson accrédite les thèses les plus farfelues du Morning Man de la radio poubelle. Alors, c'est quand même quelques extraits pour vous en convaincre. Premier extrait, Françoise David est une politicienne active, co-chef et candidate de Québec solidaire, un parti marginal à connotation communiste et souverainiste qui a recueilli 3,7% des voix aux élections du 8 décembre dernier. Alors, premier point, si Québec solidaire est communiste, rien que ça, alors la principale insulte de Bouchard, que David est soviétique, se trouve à être justifiée. Traiter Québec solidaire de communiste, alors que le parti n'est que vaguement social-démocrate, on va s'entendre là-dessus, c'est aussi subtil et justifié que de faire le rapprochement entre la DQ et le Front National, ce qui avait été par ailleurs dénoncé par Sanson à l'époque.
Mais bon, voyons.
Ben oui.
Il est en train de dire qu'il n'est pas constant dans ses remarques.
Non.
Maudit.
Ceci dit, au cas où j'ai personne qui oserait faire le rapprochement entre le traitement de la DQ et le traitement de Québec solidaire. Ah, voyons bien. Donc.
On compare pas des pommes et des oranges.
Autre citation, tiré de la chronique de Jean-Jacques Sanson. Le choix de cette personne pour représenter les militantes féministes dans le cahier d'exercice du cours d'éthique et de culture religieuse est au minimum une erreur de jugement de la part des responsables du matériel scolaire, ou au pire, une volonté philosophique d'offrir Madame David comme modèle à des élèves du secondaire. Ces derniers la reconnaîtront inévitablement à la télévision ou dans les journaux lorsqu'elle apparaîtra en tant que porte-parole de Québec solidaire et ils seront enclins à accueillir favorablement ses propos politiques. Deuxième point, donc, la thèse de la propagande et du lavage de cerveau qui est accréditée. D'ailleurs, il faudrait souligner par ailleurs qu'on se demande bien comment est-ce que les élèves du secondaire pourraient non seulement accueillir favorablement les propos politiques de Françoise David, mais même la reconnaître alors qu'ils sont incapables de se souvenir de la moitié de ce qu'ils apprennent à l'école.
Ah non!
Non, mais sérieusement, là, je veux dire, on s'entend?
Oui.
En général, mais non, une page que dans un de tes cours, une page de manuel d'un de tes cours...
Ce que
la première
Sanson
la seule
dit,
fois.
C'est qu'on cultive leurs esprits pour développer des idées gauchisantes, ok?
Oui, oui, oui.
Bon,
je...
c'est,
oui.
C'est la conspiration.
Oui. Tout à fait. N'empêche, c'est pas parce qu'on a Marguerite Bourgeois une fois qu'on sait nécessairement c'est qui.
Non, mais si t'en entends parler après, c'est un principe de marketing, ça. Après ça, tu vas l'aimer.
Oui.
Et c'est le mal.
Autre citation, le gouvernement du Québec, justement, parlant de marketing, fait la chasse à une entreprise commerciale comme Saputo qui cherche à faire goûter ses petits gâteaux vachons aux élèves. Il interdit la publicité destinée aux enfants, il bannit la commandite de certains événements en milieu scolaire ou de la santé, il retire tout symbole religieux au nom de la liberté de choix, mais le ministère de l'Éducation donne à répétition son imprimature à du matériel qui fait la promotion d'orientation gauchiste ou du syndicalisme. Le féminisme n'est pas de gauche, mais la porte-parole de Québec solidaire à qui on accorde un traitement de vedette l'est à l'extrême.
Là-dessus, Gilles Proulx avait une citation qui m'est rentrée gravée dans la mémoire. « Nous vivons dans un État communiste qui s'ignore. » Il avait lâché ça à une heure de grande écoute à midi, c'était pur délice.
Alors, troisième point, le Saputo, le parallèle avec Saputo est directement repris du show du 93.3. Notons au passage, M. Sanson profite pour régler des vieux comptes avec le syndicalisme, comme si l'école faisait la promotion du syndicalisme, alors que ça n'a absolument pas rapport dans le cas qui nous occupe. Françoise David et Québec solidaire sont très 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 certainement pro-syndicat, mais c'est ni pour ça qu'ils sont connus, ni pour ça qu'on en parle en ce moment. Et puis, c'est ça, encore une fois, disons qu'on a plus de chances de voir régulièrement la face des Joe Louis que la face de Françoise David.
Ben voyons.
Donc voilà. Autre citation, les parents du Québec constatent depuis longtemps avec impuissance le lessivage de cerveau. Le lessivage de cerveau que les enseignants font subir à leurs enfants.
Plus blanc que blanc.
Je sais, hein. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas étranger à la montée de popularité des écoles privées. Outre l'encadrement plus serré que celle-ci offre, de nombreux parents veulent soustraire leurs enfants de l'emprise idéologique des enseignants du réseau public et leur permettre de se développer dans un milieu où les valeurs mises de l'avant correspondent davantage aux leurs.
La droite.
Ouf!
Ça me touche.
Et voilà, la dérape. c'est plus une page d'un manuel ni même un cours qui est problématique.
C'est l'État québécois.
Oui, non, mais c'est tout le système public et surtout les méchants profs syndiqués gauchistes.
Ça y est, la boucle est bouclée.
Camille Sanson sort de ce corps.
Ah!
Autre citation. De nombreuses autres femmes, c'est la dernière d'ailleurs, après ça je vais vous laisser tranquille et on va en musique. De nombreuses autres femmes québécoises, à commencer par Thérèse Cassegrain, ont fait plus pour l'avancement des femmes que Mme David et auraient pu être présentées aux élèves pour illustrer ce mouvement. Et là je tiens à le souligner. Alors Jean-Jacques Sasson est un homme cultivé et il profite de l'ignorance politique crasse de ses lecteurs pour en passer une petite vite. Tu sais qui toi Thérèse Cassegrain?
Aucune idée.
Alors, Thérèse Cassegrain, pour ta gouverne, elle est surtout connue parce que c'était une sénatrice libérale.
Ooh.
Qui a été une des figures de proue mouvement pour obtenir le droit de vote des femmes au Québec à la fin des années 40. Sauf que, ça c'est ça pourquoi on la connaît à la toute fin de sa vie. C'est Trudeau qui l'a nommée sénatrice libérale en 1970. Mais elle est surtout connue parce qu'elle a été députée et militante active du CCF, l'ancêtre du NPD. Ça a été la première chef de parti politique provincial au Québec. Entre 1951 et 1957, c'était la chef du Parti social-démocrate du Québec, la branche provinciale du CCF. Et c'est aussi la fondatrice en 1966 de la Fédération des femmes du Québec.
Maudit.
Alors, moi, j'ai comme l'impression que Françoise David, c'est pas mal l'équivalent moderne de Thérèse Cassegrain. Et je sais pas, mais c'est drôle, mais j'ai comme l'impression que les journalistes des années 50 devaient la trouver pas mal communiste, la Thérèse.
Maudit. C'est l'invasion. C'est parce qu'elle n'a pas été capable de trouver une femme militante qui n'était pas gauchisante. C'est ça. Tu veux comment ton cerveau a été lessivé?
En tout cas, voilà. C'est ce qu'on lit dans les journaux mainstream et sérieux de la capitale, puis après ça, on se questionne encore sur le mystère de Québec.
Le mystère de Québec. Faut-tu vraiment leur passer?
Non, ça va être correct. Mais on parle en musique, par exemple.
Oui.
Et on va revenir avec l'Islande tout de suite après.
Se couche en la ville de Seignasse. Watch on, non, non. Le soleil se couche en la ville. Pour certains, tout s'arrête. Pour d'autres, tout commence dans l'usine. Le soleil se couche en la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Le soleil se couche en la ville. Pour certains, tout s'arrête. Pour d'autres, tout commence dans l'usine. Le soleil se couche en la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Les obstacles, je ne vois pas quand le soleil se couche au Paris. Sans aucun effacement, on l'a d'invalidé tout le jour un combat. Pendant que je ne sais pas à faire la fiesta. La vie s'organise ainsi qu'ici bas. Dans le patronat, dans sa tête, le prolétariat. C'est chacun pour soi et surtout chacun chez soi. Et j'entends toujours les pleurs des gens dans ma de chez moi. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains, tout s'arrête. Pour d'autres, tout commence dans l'usine. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans l'usine. Le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Quand le soleil se couche sur la ville, j'ai l'impression que c'est pas le même que sur mon île. Et je sais que de Paris jusqu'à Mandeville, c'est le même que Trimo. Pour la du gâteau la plus infime. Les voitures klaxonnent sur le périph. Et dans leur tête, même les caves se revivent. Le métro bombé de Parisien agressif. À 8h du soir, pour tout le monde c'est le même tarif. C'est l'heure où tout le monde est devant son journal. Les mauvaises nouvelles pleuvent en rafale. Et j'essaie d'oublier la routine quotidienne. C'est pas tout ça, mais attends si j'ai la balle, j'ai la non. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans l'usine. Le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans l'usine. Le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Encore une journée passée à Paname. Toujours les mêmes rengaines et les mêmes mélodrames. D'aliments et signaux. Le soleil se couche sur la ville. D'aliments et signaux. Le parasite de vermine. Quand le soleil se couche dans ma tête, c'est que j'ai plus le cœur à faire la fête. Je suis plus trompé par le miroir aux alouettes. Normal, attends et endors où le monde perd à sa tête. Quand le soleil se couche ici-bas, c'est qu'une nouvelle journée s'annonce à moi. Tous les jours je me lève et je vais.
ville. On s'entend tous arrêter pour d'autres groupes, on entend le rire. Le soleil se couche sur la ville, tout le monde se croise, on s'en parle des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville, on s'entend tous arrêter pour d'autres groupes, on entend le rire. Le soleil se couche sur la ville, tout le monde se croise, on s'en parle des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville, le soleil se couche sur la ville. Le soleil se couche sur la ville, la vie m'a laissé. Le soleil se couche sur la ville, de parasites et de vermine.
Bon sang, on vit en société, on pourra-tu avoir des moyens collectifs pour organiser cette société-là?
Oh, never hit your grandma with a shovel.
Vous écoutez, what a bit!
Alors, notre collectif est loin d'être le seul groupe libertaire à proposer une émission de radio alternative. Il y a nos camarades de l'Organisation communiste libertaire en France, par exemple, qui nous ont précédé de 20 ans, rien que ça, sur les ondes. Et la semaine dernière, Grégoire, c'est le nom de leur émission, proposait une émission sur la situation en Islande. Alors, l'Islande, ben, c'est là-bas qu'est tombé le premier gouvernement des suites de la crise économique internationale. Alors, il y a Antoine, un militant français qui se rend régulièrement dans l'île, qui nous informe des racines de la banqueroute islandaise et des derniers développements de la résistance. C'est heureux parce que c'est un sujet très important qui, malheureusement, n'est à peu près pas couvert dans la grande presse. Alors, personne n'en est vraiment surpris. Mais bon, voilà. Grâce à la magie d'Internet, on peut vous présenter aujourd'hui à voix de fait de larges extraits de cette entrevue réalisée par Grégoire sur les ondes de Radio Primitive dans l'Hexagone.
Allez, bonsoir, c'est les Grégoire. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Grégoire, une parole anarchiste communiste. Allez, ce soir, nous allons vous parler un peu d'Islande. Et oui, et nous avons au téléphone d'ailleurs un copain, Antoine, qui va souvent, on peut dire, en Islande et qui connaît un peu cette île de 300 000 habitants. Salut Antoine.
Salut, oui.
Salut Antoine. Et alors toi, tu es allé là-bas depuis quelles années ?
Moi, j'y suis allé depuis 1995, la première fois où j'y suis allé. Et depuis, j'y suis allé assez régulièrement, 7-8 fois, je ne sais plus bien exactement.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, ces projets qui sont menés par l'industrie de l'aluminium, hein, en particulier ?
Pour revenir, oui, un petit peu en arrière. Donc, depuis quelques années, il y a des projets un petit peu mégalomanes de construction de barrages en Islande, de barrages hydroélectriques, parce que c'est une île qui est très très arrosée par la pluie. Ceux qui ont pu y aller ont pu s'en rendre compte qu'il y avait pas mal d'intempéries, qu'il y avait des énormes rivières, puis des rivières glaciaires aussi, avec un potentiel hydroélectrique très très important. Et comme cette électricité elle peut servir à des industries très gourmandes en électricité, comme les fonderies d'aluminium, ils se sont lancés dans des projets de construction de barrages sur des terres complètement sauvages et vierges, des barrages énormes, et notamment depuis 2006, ils ont ouvert le plus gros barrage d'Europe dans un endroit qui s'appelle le Caronaukar. Et donc dans le seul but de d'y implanter à côté, à une centaine de kilomètres, une fonderie d'une usine canadienne, Alcoa. Et c'est tout ce processus, c'est effectivement c'est pour essayer de garantir à l'Islande une sorte d'indépendance, une espèce de développement un peu en trompe-l'œil à mon avis, parce que c'est depuis l'indépendance de l'île en 1947, leur souci principal c'était d'assurer une indépendance économique. Alors ils se sont développés pas mal au début au niveau du secteur de la pêche, et puis là depuis quelques années ils ont été pris d'une espèce de frénésie à vouloir notamment construire ces barrages, implanter de l'industrie lourde, etc. Et oui. Ils en payent en partie le prix aujourd'hui. Et oui, pour faire le lien avec ce qui se passe actuellement, les barrages, les investissements colossaux que l'État islandais a engagés, notamment les investissements financiers, je pense que c'est, les économistes le disent aussi, c'est que c'est un élément de compréhension de la crise que traverse la crise économique que traverse le pays actuellement.
Oui, alors celui-là, de barrage, a coûté la maudite somme de 1,2 milliard d'euros. Et je crois que le coût global était estimé pour les 5 barrages à au minimum 2,5 milliards.
C'est possible, je me souviens plus des chiffres, mais c'est assez énorme compte tenu du budget d'un pays qui fait seulement 300 000 habitants, quoi. Et notamment, l'Islande, c'est pas mal, l'État islandais s'est pas mal endetté pour faire construire ces barrages, et il devait rembourser les prêts de les prêts contractés grâce en fait aux redevances versées par les entreprises d'aluminium. Mais ces redevances elles-mêmes sont indexées sur le prix de l'aluminium, sur le cours mondial de l'aluminium. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'aluminium, depuis je ne sais pas combien de mois, le prix de l'aluminium sur les marchés mondiaux s'est totalement cassé la gueule. Donc du coup, ça fait moins de rentrées d'argent, moins de redevances que l'industrie paye à l'État islandais, donc des difficultés aussi, à mon avis, pour payer les emprunts. Et je crois que ça fait partie d'un élément qui explique la crise gigantesque que connaît le pays actuellement.
D'accord. Est-ce que tu as justement plus généralement des éléments sur ce qui se passe en ce moment en Islande ?
Alors, au niveau de la situation économique, c'est depuis 91, 92, je me souviens plus de l'année exacte, mais les banques islandaises ont été privatisées et il y a eu une espèce d'engouement, enfin complètement démesuré de la part de ceux qui ont racheté les banques, hein, les capitalistes, des familles capitalistes islandaises, qui se sont lancés à tout va dans des opérations sur les marchés internationaux complètement délirantes. Il y a eu une espèce de développement totalement démesuré de ce capitalisme, notamment ce capitalisme financier, si bien que qu'avant l'automne, on dit que les investissements financiers de ces banques, de ces trois grosses banques islandaises, représentaient 9 à 10 fois le produit intérieur brut. Ce qui est vraiment totalement délirant en termes de gestion saine, entre guillemets, d'une économie, quoi. Mmh. Et finalement, donc, quand on a connu la crise des subprimes à la fin du mois de septembre dernier aux États-Unis, et toute la crise du secteur bancaire, etc., ces trois grosses banques islandaises se sont littéralement effondrées. Tous leurs investissements ont perdu toute leur valeur, etc. Et en l'espace d'une semaine, donc ces trois banques ont été en état de faillite complet, et elles ont dû être en catastrophe, nationalisées, rachetées en quelque sorte par l'État islandais, quoi.
Mm-hmm.
Bon, ce qui a entraîné la crise
actuelle,
ce qui est le principal élément de la crise actuelle, quoi.
Alors, pour rappel, justement, le gouvernement a démissionné et là, il y en a un temporaire, c'est bien ça ?
Il y a un nouveau gouvernement temporaire qui vient de surgir, mais alors c'est surtout, en fait, c'est ce gouvernement, donc, il est le résultat, finalement, de 3-4 mois de lutte et de manifestations qui sont montées crescendo en Islande, pas seulement à Reykjavik d'ailleurs, même dans les plus petits patelins, il y avait des fois des manifestations de quelques dizaines de personnes. Donc il y a eu toute cette mobilisation que je peux raconter un peu plus en
oui,
détail.
Oui, oui, raconte-nous, ça nous intéresse.
Oui, donc en fait, bon, il y a d'une part la crise de ces trois grosses banques, mais ça, à la rigueur, l'Islande des moyens, c'est pas forcément son souci, mais le souci de l'Islande des moyens, c'est aussi que depuis ces années folles de croissance économique, s'était habitué, on l'avait incité aussi à vivre à crédit, à contracter notamment des emprunts dans des devises étrangères pour acheter la maison, l'appartement, la voiture, le matériel IFI, etc. Et donc la plupart des Islandais apparemment vivaient jusqu'à maintenant à crédit. Et avec la crise économique de l'automne dernier, donc la couronne islandaise s'est totalement effondrée et du coup leurs emprunts ont pris une valeur considérable avec des mensualités à rembourser énormes Et de fait, une majorité de la population est dans la possibilité totale de payer leur mensualité. Déjà, premier problème, il y a pas mal de gens qui sont menacés de perdre leur logement, notamment. Et puis, suite à ça aussi, il y a une espèce de vague déferlante de chômage là, qui passe en 3-4 mois, qui est passé de 1% à 6-7%, et on prévoit 7-8%, 8-9% d'ici fin 2009, quoi, avec des milliers d'emplois là qui ont été supprimés en l'espace de quelques semaines. Et en plus de ça, donc pour dresser un peu le contexte de ces mobilisations, la classe dirigeante politique, économique, c'est un petit peu la même, comme souvent d'ailleurs, mais elle est très, très imbriquée en Islande. Les gros capitalistes islandais, c'est souvent des membres de la famille, des ministres, etc. Et notamment, bon, il y a eu une focalisation aussi sur le gouverneur de la Banque centrale islandaise qui est très très impliqué dans toutes ces magouilles financières qui ont lieu toutes ces années. Et toute cette classe dirigeante économique et politique, elle est restée au pouvoir depuis l'automne, et elle continuait à vouloir revendiquer, à conserver le pouvoir malgré la catastrophe économique de leur politique, quoi. Les mobilisations en fait se sont pas mal focalisées sur le Premier ministre, sur le directeur de la Banque centrale, qui accusait d'incompétence, de magouille, etc., et qui en plus de ça souhaitait rester au pouvoir, quoi. Donc les Islandais avaient pris l'habitude là, dès le mois d'octobre de manifester tous les samedis après-midi sur une place notamment de Reykjavik. Donc c'est des manifestations qui sont allées de plus en plus importantes jusqu'à Noël. Il y avait aussi pas mal d'autres petites actions de temps en temps, des militants aussi rendre visite au siège des différentes banques ou au siège de la Banque centrale, des petites incursions comme ça pour essayer de perturber le travail. Et donc ce mouvement est monté crescendo, et notamment il a repris de plus belle là en janvier, quand le Parlement devait, après les vacances de Noël, devait reprendre son travail, la session, le 20 janvier. Là, le mot d'ordre est passé dans la population que il fallait tout faire pour empêcher les institutions islandaises de refonctionner comme elles l'avaient fait actuellement, et donc de bloquer le fonctionnement du Parlement et du gouvernement. Et il y a eu des manifestations à partir du 20 janvier, pendant 3-4 jours, des manifestations jour et nuit devant le Parlement, notamment à coups de casserole, etc., le but étant de faire le plus de bruit possible pour les empêcher de travailler. Avec des milliers de personnes dans les rues de Reykjavik, dans une véritable stratégie de harcèlement des parlementaires, des ministres. Il y a notamment eu un jour le premier ministre s'est fait attendre en bas de sa résidence et s'est fait quasiment courser dans les rues de Reykjavik par les manifestants. C'est tout ce mouvement, il y aurait tant d'autres choses à raconter, des tas de petites initiatives aussi, qui ont conduit le gouvernement à tomber il y a une semaine exactement.
Est-ce qu'on sait qui sont les manifestants, politiquement, qui sont les gens qui manifestent? Est-ce que ce sont des réseaux qui sont créés ou c'est très spontané
Ça a été assez spontané d'après ce que j'ai pu... moi j'ai suivi tout ça à distance, via les médias islandais, via quelques sites un peu alternatifs islandais. Mais ça a l'air d'être assez spontané. Il y a eu un personnage qui a lancé... un personnage un peu connu en Islande, un personnage médiatique qui est le premier à lancer l'idée de faire des rassemblements le samedi. Et puis après, ça a été repris. Puis il y a pas mal maintenant de groupes plus ou moins formel, de groupes anars notamment, qui sont assez présents là-bas, visiblement, qui ont lancé des initiatives.
J'ai entendu par exemple c'est anecdotique, à Noël, ils ont fait des défilés déguisés en Père Noël où ils disaient aux gens maintenant vous pouvez plus rien vous payer, grâce à Coca-Cola, remerciez-les, Noël c'est de la merde, etc.
Il y a eu ça, il y a eu le, le 30 ou le 31 décembre, il y avait un espèce de grand show télévisé avec journalistes, économistes, responsables politiques, machin, qui se félicitaient de je sais pas quoi, enfin bref, à la télé islandaise. Et il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont intervenues dans l'hôtel où se déroulait le tournage de cette espèce de plateau télé. Et ils ont carrément coupé la retransmission en coupant les câbles télé.
Mmh.
Ça a été un petit peu cet événement est notamment vécu par les milieux militants là-bas comme un peu l'événement déclencheur à des actions plus offensives qui ont eu lieu après au cours du mois de janvier, quoi.
Mmh. Tu sais si il y a eu une réaction du pouvoir par rapport à cette mobilisation?
Oui, alors c'est un petit peu nouveau pour l'Islande. C'est bon, d'une part, ces manifestations d'ampleur comme ça, et puis pour la police, pour les polices islandaises, c'était aussi un petit peu nouveau, et ils ont dû sortir de leurs cartons qu'ils n'avaient sans doute jamais utilisé les tenues anti-émeutes et les gaz lacrymogènes, etc. Donc il y a eu quelques scènes un peu d'émeutes, des gens, oui, et puis les gens aussi se sont radicalisés aussi dans leurs expressions, avec des vitres du Parlement brisées, des slogans tagués sur les murs, des choses, un niveau d'affrontement que jusqu'à maintenant l'Islande n'avait pas connu, sauf il y a très longtemps quand il y avait eu des manifestations contre l'adhésion de l'Islande à l'OTAN, mais c'était il y a 60 ans, quoi.
Mmh, d'accord. Il n'y a pas d'inculpation, par exemple?
D'après ce que j'ai compris, non, mais il y a eu souvent des arrestations.
D'accord.
Mais j'ai pas vu de suite judiciaire.
D'accord. Ben écoute, je sais que tu es relativement pressé ce soir, donc on va peut-être arrêter là.
Oui, juste un mot, je peux dire. Bon, donc c'est que pour les événements là récents, il y a un nouveau gouvernement qui s'est formé, une coalition composée à la fois de sociaux-démocrates et d'un parti de parti vert qui s'appelle les Verts de gauche. Qui entre en fonction hier exactement.
Mm-hmm.
Donc c'est pourquoi une coalition comme ça, c'est parce que en fait d'après les sondages l'opinion islandaise s'est quand même pas mal basculé à gauche suite à l'échec de cette politique de la fin des politiques précédentes. Donc c'est un gouvernement provisoire qui ensuite avec des élections prévues des élections législatives prévues au mois d'avril.
Mm-hmm.
Donc j'espère que les Islandais ne vont pas se contenter de cette espèce de changement de façade, sans doute. Il y a eu encore des manifestations samedi dernier. Il y avait un peu moins de monde, ce qui était prévisible.
Mm-hmm.
Et puis, pas mal de petits groupes anarchs qui continuent à mobiliser et qui commencent à développer aussi une campagne un peu alternative en disant aux gens, c'est pas parce que vous allez voter, c'est pas parce qu'on a un gouvernement de gauche que la situation économique va changer, et qu'il serait peut-être temps de réfléchir à un autre système et une prise en charge de nos réels, de nos besoins et des moyens de production, quoi.
D'accord, bah écoute, on te remercie.
Je vous en prie.
Allez, c'était donc les Régors, chaque semaine sur les Côtes de Garrigues, Montpellier, Canassus à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une part anarchiste communiste.
Toujours sur les ondes du 88.3, vous écoutez Voix de Fait. Vous pouvez aussi écouter Égrégore sur Internet, sur le site web de l'OCL, oclibertaire.free.fr. Et d'ailleurs, il faut dire que malheureusement, pour des questions de temps, nous avons dû couper l'entrevue. On a dû en retirer au moins la moitié, en fait, qui traitait surtout des aspects environnementaux, des barrages et des luttes environnementales et un peu de l'aspect historique. Et donc, vous pouvez écouter l'émission et l'entrevue avec Antoine dans son intégralité, soit sur notre blog, voixdefait.blogspot.com, soit sur le site de l'OCL, oclibertaire.free.fr. C'est l'émission du 2 février. Alors, voilà.
Là, on va redoubler d'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
C'est quoi de voix de fait, madame?
Ah. était. On a passé par devancer et on n'a rien trouvé. On voulait parler du diamant, dénoncer des choses immondes, critiquer la télévision.
On a eu des menaces.
Ça ne fait rien, on est bien.
Bonjour, vous venez d'entendre les fils de Tepu sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Depuis le début de l'émission, il y a Jenny, tel que promis, qui s'est rejoint à nous et qui va nous faire un topo de politique municipale pas très locale.
Ça, c'est, ça te passe du côté de Los Angeles, aux États-Unis. C'est, ça, c'est comme le conseil municipal de cette ville-là qui a décidé d'octroyer une somme de 13 millions de dollars de manifestants et manifestantes qui avaient été battus par des policiers lors d'une manifestation tenue le 1er juillet 2007.
Simple curiosité, 13 millions, ça se partageait entre 50 000 personnes ou 137?
Ce qu'il disait dans l'article, c'est qu'il est paru sur Cyberpresse, il disait que nombreuses personnes avaient porté plainte.
Combien?
Nombreuses personnes.
Okay.
Il disait c'est centaines de personnes qui avaient été battues, mais c'est, dans l'article, c'était pas spécifié le nombre de personnes.
À Los Angeles, il doit y avoir deux flics pour un citoyen, fait que... il faudrait faire un topo un moment donné sur le ratio police-citoyen.
Ouais, ben, j'ai vu des chiffres sur le ratio nombre de prisonniers par capita, mais jamais vu sur le nombre de policiers par capita.
Je pense pas qu'il y en fasse.
On entend souvent parler du nombre de médecins par capita. Est-ce que c'est beau pour ça?
Ces personnes-là, ils avaient porté plainte à pas avoir été violemment dispersés à coups de matraque puis de balles de plastique. Puis, ce côté policier, eux autres, il y a eu des réprimandes, puis il y a eu des rappels à l'ordre et quelques suspensions, mais rien de plus.
Comme ça, moi, des rappels à l'ordre, ça veut tellement rien dire. je te rappelle que c'est pas légal de tabasser quelqu'un.
Attends, ils vont quand même pas faire des retenues sur la paye pour 13 millions, là.
Ben. Tu sais, je l'ai dit sur le blog.
Alors, vous allez travailler pour les 242 prochaines années.
Je l'ai dit sur le blog, ça. Les radios populistes à Québec voudraient que les organisations qui arrangent les manifestations paient pour le service de police. Ben, pourquoi la police ne paierait pas pour ses fautes?
C'est une bonne question. Et il y a des choses qui se passent à Québec. ces temps-ci. Et en fait, il y a des choses à pas manquer. Bon, premièrement, si vous nous écoutez mercredi, parce que notre première diffusion, c'est le mercredi de 8 à 9.
Et on est rediffusé.
Le jeudi à 14h. Si vous nous écoutez le jeudi à 14h, il va être trop tard. Mais si vous nous écoutez le mercredi, vous avez peut-être encore le temps de vous rendre à l'AJT pour le début du spectacle bénéfice pour l'Infoshop, la page noire. C'est un spectacle de folk, oui. Ben oui, ça commence à 9h.
Ah, je savais même pas qu'il y avait ça.
Donc voilà, c'était la plug pour les camarades de la page noire. Sinon, il y a dimanche une projection du film À fleur de peau de Sarah Charland. Alors c'est à l'occasion de la journée internationale des travailleurs des travailleuses des fleurs. La Saint-Valentin.
Oui.
Et c'est projeté le 15 à 17h à la JT. Donc c'est un film que notre camarade Julie nous invitait à plugger. J'imagine que c'est un bon film.
C'est mieux.
Oui, ben de toute façon, bon, enfin c'est ça, dimanche 15h à 17h. Et sinon, ben il y a Fred de
l'anarchie,
oui. Oui, qui nous informe que mardi prochain, le 17 février à 19h, toujours à la JT, 251 rue Dorchester, y a-t-il un autre endroit à Québec, nous en doutons. Il y a un nouveau film sur Noam Chomsky qui va être projeté. Alors, en primeur québécoise pour les mardis de l'anarchie, tous les mardis des 19h, il y a une gracieuseté des mutins de Pangée, Chomsky et compagnie, au petit cours d'autodéfense intellectuelle avec la participation de Normand Baillargeon et Jean Bricmont.
Ils vont être là ou...
C'est non, dans le documentaire.
Ouais, je trouvais qu'il était big. C'était un gros mardi de l'anarchie.
Ouais, ben donc c'est avoir cette projection là. On annonce que par la création de ce lieu comme hebdomadaire, Fred, ben en fait, les gens qui organisent les Mardis de l'Anarchie cherchent l'avancement et l'éclaircissement des idées libertaires dans le but de les rendre viables aujourd'hui comme demain. Et ils visent le développement du débat politique non sectaire comme habitude d'évolution et d'épanouissement individuel et collectif. Et donc, ben c'est ça. C'est tous les mardis à 19h au Café Bar LGT en collaboration avec la librairie sociale autogérée et c'est évidemment gratuit. Ceci dit, il faut payer pour la bière qu'on boit.
Ah non.
Oui.
Ouais, mais le surnom de l'AJT au niveau des prix, c'est l'attardé. C'est la bière la moins chère et le fort le moins cher en ville. Ça, moi, je bois pas, je peux pas vous le dire, mais c'est ce que j'ai entendu dire.
Les gens
dire.
Qui disent ça, sortent pas souvent.
Ah non?
Non.
Mais voyons.
C'est pas cher, mais c'est pas encore le moins cher. Oh. Ceci dit...
Voilà, c'est ce qu'on parle avec le caméléon.
C'est le caméléon.
Un 4 litres à 20$. Le légendaire bar à poudre de Limoilou.
Ouais, on s'éloigne un peu de la mission oui, d'émission, qui est un magazine libertaire et non pas un magazine éthylique. Donc, vous êtes sur les ondes de CKIA 88.3 Radio Basseville à Québec. Vous écoutiez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit, en compagnie de Nicolas.
Jeannie.
Farouk.
Et sur ce, nous vous souhaitons une agréable semaine en notre compagnie. Ne fermez pas la radio.
Non, parce qu'il y a Kenaton qui s'en vient.
Eh oui! Sinon, vous pouvez toujours nous lire sur notre blog Voix de fait avec un X et un X.blogspot.com.
Il a quitté les champs pour un quartier qui se délabre. Sa femme a accouché d'un fils qu'il a nommé Stéphane, afin qu'il puisse mieux s'intégrer dans la société. Mais Stéphane, qui a grandi ici, dans le vice, est une autre statistique de délinquance juvénile. Son meilleur ami Hicham, ce jeune qui vient de Nice, autant que je sache, est ma foi un gosse bien tranquille. Stéphane est dans tous les coups pourris et par-dessus tout déteste les types qui passent à table. Son père, qui va le chercher au poste la nuit, fait retomber la faute sur celui qu'il appelle l'arabe. Les gens vivent si proches et les cultures s'ignorent comme deux jumeaux qui sont assis dos à dos. Un peu de piment dans une vie banale et l'ennui conduit aujourd'hui à ce que des gosses jouent du couteau. La tension, moi les faibles, la technique de la pression de l'effroi pour des rois du bloc 3. Et tous deux se souviennent comme hier des premiers coups de cran d'arrêt au cinéma à la sortie de Rocky 3. Tant de personnes les haïssent, ces stéréotypes de la terreur qui vient du nord de la ville. Ils rejettent l'idéal de leurs parents et disent refuser de devenir des pigeons savants. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui cachent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément écrit d'avoir vécu trop longtemps dans le secret. Un brin de haine. Juste un brin de haine.
désormais enfermé comme Pygmalion dans la peur des Arabes. Sans cesse sur ses gardes, il mène une existence régie par la loi du talion. Il ne s'endort jamais en l'absence de la Bible et du 22 long rifle à côté du lit. Lui qui dormait la porte ouverte dans la maison de famille, dans la campagne qui entourait leur cri. Et voici le résultat d'un entassement, des gens pas vraiment méchants, mais qui ignorent tout du voisin. Août 95, aucun effort est fait dans ce camp, et cet été nous vivons un climat vraiment malsain. Stéphane, je t'interdis de voir tous ces minables. Stéphane ne fréquente donc plus ce sale arabe. En croyant qu'Hicham l'entraîne vers le vice, il ignore que le diable dans l'histoire est son fils. Et quand celui-ci claque la porte, il souffle comme d'habitude, très loin d'avoir des soupçons. Stéphane passe prendre son pote et il trace vers la gare, attraper un train pour Toulon. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui gâchent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément écrit d'avoir vécu trop longtemps dans le secret. Un brin de haine, un brin de haine, oublie des plus qu'il est moins suit, devient faux qu'il reste vrai. Juste un brin de haine, un brin de haine, oublie des plus qu'il est moins suit, devient faux qu'il reste vrai. À Toulon, les filles sont si jolies, mais aujourd'hui, pas question de penser au lit. Ils prennent deux billets, puis pénètrent dans un cinéma, s'asseyent derrière un couple qu'ils ont filé. La femme a toujours le sac au bras, dès qu'elle le vire, Stéphane plonge et taxe les clés de la tire. Ils ont payé le train et emprunté une Audi, qu'ils viendront regarder lorsque le coup sera bien fini. Aucune trace, aucun indice, pas de voiture volée. Ce soir Stéphane est fier, quand ils arrivent à la Valette, ils se glissent le long d'un mur. Tout va bien, ce soir c'est désert, le rideau de fer du PMU7. Ils crochettent la serrure, aucune emmerde. Quand ils distinguent la caisse, ils sourient, ils se ruent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le patron vit au-dessus. Merde, le gadget a une arme, il la charge. La balle est rappelée, l'épaule d'Hicham. Ils partent comme des fous et laissent tomber le fric. Stéphane retourne son blouson pour tromper les flics. Il saute dans l'Audi, démarre et fuse vers Marseille à fond, sans demander le reste. Quand ils arrivent au quartier, Stéphane se marre, mais il a paumé les clés sûrement en tournant sa veste. Alors il escalade jusqu'au premier et pousse la fenêtre du salon pour entrer. Son père se tient debout dans le noir, il est chaud, vise la tête et lui dit tiens, meurs sale bico l'idiot. Il croyait que des voyous l'attaquaient et s'est donné lui-même le plaisir de riposter. Voilà ce qui arrive quand on méprise les hommes et qu'on se fout éperdument de l'éducation de son môme. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui gâchent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément écrites à avoir vécu trop longtemps dans le secret. Un brin de haine, un brin de haine, oublie de plus qu'il est moins suit, devient faux qu'il reste vrai. Juste un brin de haine, juste un brin de haine, oublie de plus qu'il est moins suit, devient faux qu'il reste vrai. Beaucoup de haine.
وراي هادي وراي سمعتي اروحي هنا اروحي وين كنتي وين
جيتي جيزين كوبين
كوبين ها وين يكون ها ليكون روحي عاوني ما كتري تري
داكور
داكور صافي امشي راك عامل ليا برا.
Grandi dans les régions d'Alger, situé dans les maquis, loin des marchands de tapis, exposés le long des rues ruées de gens sur le pavé, en se passant le calumet, près d'une tasse de thé à la menthe, sur un air de huit qui chante, sous les tentes sans arrêt, c'était en plein été, sur la planche ensoleillée, vêtu de blanc sous un immense palier, sur le grand port d'Alger, dans sa main un panier, juste de quoi manger pour le trajet, assis sur un banc, un n'a que 18 ans, quand elle prit son premier bateau pour la Méditerranée, en direction de Marseille, ville rebelle, un coucher de soleil, où ses parents se sont installés. Il y a 17 ans, 4 enfants, pas un franc, seule valise en main, comme compagne sans rien, accueilli comme des mesquines, loin des regards mesquins, pour y travailler, gagner son pain, subvenir à ses besoins. Faut bien, faut bien.
Elle brise le voile du silence pour prendre les voiles à 18 ans. Elle pense à l'évasion, prisonnière d'une tradition millénaire sur terre de fer. Si je revendique des choses pour mes sœurs, c'est que dans leur cœur ça va mal. Combien parmi vous ont fait la cabale? Maintenant on pense à vous, c'est dans les annales.
Oubliée dans le désarroi, elle n'a pas le choix. Elle voit comment les traditions, les coutumes de ses parents dirigent son intégration. Loin du temple de la tentation, renfermée dans sa maison, elle n'a pas de chance. Prisonnière sous le voile du silence, la sentence.
Elle fait partie de celles qui pensent à l'évasion. Voyager vers l'horizon. La seule passion était collée sur les murs blancs de sa chambre. Quelques posters de mannequins, regard tendre. Sur son regard, près du miroir, ses larmes tombaient comme des cendres. Elle rêvait de se rendre, partir loin là-bas. Loin de son lit froissé, mais liée par sa destinée. Dans son 10 mètres carrés, près de sa fenêtre, la tête posée sur ses lettres. Elle s'inquiète, rien à mettre sur ses cahiers de maths. Près des petits frères qui font la yacht, ouais. Les pattes sont cuites, la faim crie, les frères crient tout seul dans ce bruit la nuit. Le mal elle le subit, elle se couche à minuit. Minuit.
Elle brise le voile du silence pour prendre les voiles à 18 ans. Elle pense à l'évasion, prisonnière d'une tradition millénaire sur terre de fer. Si je revendique des choses pour mes sœurs, c'est que dans leur cœur ça va mal. Combien parmi vous ont fait la cabale? Maintenant on pense à vous, c'est dans les annales.
Après les cours, elle rentre chez elle. Pour elle, pas de week-end, renfermée dans sa maison en pleine vraie d'Italion. Le moindre retard était la moindre explication. Sinon c'était sans réveillon, cloîtré dans sa chambre avec ses rêves et ses crayons en larmes. Dans son carnet secret, ses sentiments de femme dévoilés. En grandissant, sans pouvoir parler, rien demander. Elle n'osait pas, elle n'osait pas la voix, pas le choix, pas le droit de choisir, désobéir. Il lui a fallu du temps avant de revenir de là où ses cris se battent dans le silence sans rien dire.